êtes bien au Transversal et je retrouve ce matin pour le deuxième volet de la semaine mon invité Jérémy Béchon, fondateur avec la comédienne Virginie Aymon de la compagnie Manifeste Rien, où il est question de l'histoire universelle de Marseille, adaptée du livre éponyme d'Alessis Dellumbria, un spectacle qui sera sur la scène du Théâtre de l'Œuvre les 28, 29 et 30 mars à 20h, et je cite... Transposé dans une mise en scène fulgurante et tout public, les 792 pages de cette ambitieuse fresque mobilisent 1000 ans d'histoire locale, politique, urbaine, sociale, culturelle, linguistique. Jérémy Béchon, quelques mots sur Alessis Dellumbria. De quelle façon avez-vous travaillé? Parce que j'imagine que vous l'avez rencontré quand même,
oui,
après avoir lu son livre ou avant. Et de quelle façon est-ce qu'il est intervenu dans l'adaptation de ce texte?
Alors, quand je l'ai rencontré, c'est assez marrant. Il m'a fait faire un long tour du marché de la Plaine.
À l'époque.
Pour tester. Déjà, il est arrivé avec 20 minutes de retard. Et puis, me disant que c'était qu'un bon Marseillais à l'heure, c'était mal poli.
D'accord.
Et ensuite, il m'a fait faire un long tour du marché de la Plaine où il a salué absolument quasiment tout le quartier. Et puis, au bout d'une heure et demie, deux heures, on s'est assis et puis on a pu commencer.
Le tchatch, il a parlé à tout le monde.
Et ensuite, on a pu commencer à travailler. Voilà, je pense que c'était une forme de pouvoir me tester.
Un bisutage.
En quelque sorte, oui, de manière assez originale. Parce que c'est quelqu'un qui est. C'est un autodidacte qui a mis 13 ans pour écrire ce premier livre, L'histoire universelle de Marseille. Il a également publié Tarentelle sur l'ex-royaume de Naples, La rage et la révolte aux éditions Agone, Anti-Matrix. Donc il a depuis publié beaucoup de livres qui oscillent entre l'histoire populaire, l'histoire culturelle et la philosophie. Il a également préfacé une de mes pièces de théâtre qui a été éditée aux éditions Latinoires, Baraque de Foire. Il avait fait une large introduction et on a travaillé ensemble parce qu'il a eu la gentillesse, au-delà de ce premier bizutage marseillais de la Plaine, de venir au début, quand on jouait l'histoire populaire des États-Unis, nous aider sur les débats. Parce qu'on jouait dans les bibliothèques et il y avait systématiquement un débat. Et il y a 10 ans de ça, ça m'inquiétait un peu plus ces débats-là. Donc j'ai invité un historien essayiste, il était venu. Et ensuite, il a suivi les premières versions de cette histoire universelle de Marseille en nous disant, il y a 10 ans, c'est dommage que tel passage, notamment sur la Révolution française, ne soit pas présente. Donc on a retravaillé comme ça jusqu'à ce que la forme définitive, même si elle est toujours en évolution, et ce qu'on va jouer au Théâtre de l'Œuvre, c'est encore différent de ce qu'on jouait il y a un an, mais pour qu'ils se reconnaissent pleinement également dans l'adaptation de son livre.
Donc là, il est OK avec vous pour ça?
Il a toujours. Oui, non, bien sûr, on est amis. Après, la démarche du collectif Manifeste Rien l'a touché, puisqu'il s'agit de la démocratisation des outils de l'histoire, des sciences sociales, et de partager par la scène, avec un côté le plus festif possible, les outils de l'analyse critique. Donc, c'est quelque chose qui, bien entendu, en tant que citoyen, rentre dans sa manière de voir et d'agir sur le monde.
En tout cas, pour vous, c'est une belle gageure, hein, malgré tout, d'adapter comme ça des textes qui ne sont pas faits pour le théâtre. Mais apparemment, vous y êtes à l'aise.
Oui, mais en fait, c'est vrai que, encore une fois, le livre d'histoire, de sociologie, d'anthropologie permet de mieux se comprendre soi-même et de canaliser une partie de l'effervescence ou de la révolte, de la rage qu'on peut avoir, des violences qu'on peut subir, et ça permet de l'écrire dans un langage rationnel dans lequel on peut amener les gens à une véritable réflexion sans s'engueuler, j'allais dire, c'est-à-dire au-delà des opinions, en mettant une rationalité de l'histoire, on arrive à se mettre d'accord sur plusieurs bords. Et je pense que c'est indispensable pour réécrire aujourd'hui une histoire commune, de pouvoir savoir d'où l'on vient, tout simplement pour pouvoir aller dans une direction qui soit commune et qui ne soit plus fragmentée. Et le théâtre permet encore une fois, en utilisant la poésie, en utilisant la musique, en utilisant la magie des lumières, permet de passer ces connaissances-là en s'amusant et en apprenant, puisque les débats qu'on a menés pendant 10 ans à l'issue des représentations ont fait aussi évoluer les représentations, les ateliers de médiation qu'on a menés aussi, les gens sont porteurs d'une réelle mémoire. Et cette mémoire vient s'agréger, continue de nourrir les œuvres qu'on adapte d'histoire ou de sociologie.
Virginie Hemon porte seule ce spectacle sur la scène du théâtre de l'œuvre. Cette fois, elle incarne à elle seule tous les personnages, on en a parlé hier, tous les personnages de l'histoire, l'histoire tout court, et de l'histoire avec un grand H. Il faut dire qu'elle est extrêmement physique, elle joue sur tous les tableaux, elle est présente partout. Enfin, c'est un petit théâtre, mais elle occupe le théâtre tout le temps. Il y a une gestuelle, c'est à la fois le clown, à la fois... Enfin, donc, à la fois, vous parlez de choses sérieuses, mais à la fois avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour. Et ça, c'est ça. Et 1 heure, ça passe vite.
Oui, 1 heure passe vite. C'est vrai qu'il y a... C'est un retour que moi, j'aime beaucoup. Les gens parlent de délicatesse.
Tout à fait.
Du jeu, parce que ce qui est dit est souvent très violent, hein, c'est-à-dire que ce sont des rixes, on parle d'émeutes, on parle de condamnation du pouvoir, on parle de choses qui sont violentes et qui font écho à notre actualité de manière parfois dramatique, mais c'est passé avec les outils du burlesque. On a beaucoup étudié à la naissance les films de Chaplin, de Buster Keaton. On utilise aussi la Commedia dell'arte qui est plus vieille, mais des choses, des artistes de stand-up contemporaines peuvent aussi nous influencer. Les cultures du rock et du hip-hop avec lesquelles on a grandi sont aussi présentes sur scène, et on a conçu comme ça un langage théâtral qui nous est propre, qui, je pense pas qu'il soit révolutionnaire du tout, je pense qu'il reprend une tradition qui s'est un peu perdue, qui est celle d'un théâtre populaire et qui mêle du coup, qui va puiser à différentes techniques, à différentes cultures pour être au plus proche de la vie. Puisque très souvent, il s'est arrivé que certains professionnels trouvaient que des personnages étaient trop caricaturaux. Et très souvent, ça nous arrivait de nous retrouver avec Virginie Hemon après avoir joué dans différentes villes et se retrouver dans des bars, se retrouver dans la rue et entendre les gens parler. Et on se disait, mais la vie est bien plus délirante encore que ce qu'on fait sur scène. Sauf que ce qu'on essaye de faire, c'est de reproduire artificiellement, hein, bien entendu, mais avec un maximum de sincérité, le délire du simulacre que produit la vie en permanence quand on la regarde, notamment la nuit, ou quand les enfants ne sont que entre eux, c'est ces endroits-là de liberté qu'on essaye de porter sur scène.
Et vous y arrivez. Vous essayez, mais vous y arrivez.
Merci.
Je vous le confirme. Parce que c'est quand même un... Je retournerai le voir dans tous les cas au mois de mars, là, prochain, fin mars. Mais c'est un spectacle que j'ai dû voir en 2020. Mmh. Et j'ai amené des gens qui étaient très heureux. Vous rendez heureux les gens. Et en même temps, intelligents. Un peu plus érudits. On en sait un peu plus, mais en même temps, on se régale, comme on dit à Marseille.
Oui, mais c'est vrai qu'après, si on a fait ces pièces, c'est pour s'éduquer nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Oui. Je pense que c'est pour ça que les gens apprécient, c'est qu'il n'y a jamais de leçons...
Non, c'est ça, c'est pas un pinsomme,
c'est qui est donné. Et nous, ce qu'on a découvert, et avec la matière avec laquelle on s'est amusé, avec laquelle on a réfléchi, avec laquelle on a digéré l'actualité de manière différente, on a voulu la partager sur scène. Mais c'est vrai que les gens sortent avec la banane de nos pièces et se disent souvent être revigorés. Encore une fois, parce qu'il y a cette communauté qui se refait à travers le théâtre.
Il y a la communauté et il y a l'énergie de l'actrice, de la comédienne sur scène. Elle développe une énergie de dingue où elle est... C'est une athlète, en fait.
Oui.
À la fois une grande comédienne, mais à la fois une athlète. Une athlète de théâtre.
Oui, mais je pense que c'est le propre du théâtre, un théâtre qui s'est un peu perdu, mais nous, les gens qui nous ont influencés, comme Eugenio Barba, qui est assez méconnu en France, mais qui a justement fait avec les comédiens et théorisé le théâtre comme étant non différencié de la danse, comme étant non différencié du mime. Et c'est des choses que nous, on utilise en permanence. Et oui, le corps de l'acteur doit être athlétique, mais la technique ne doit pas se voir. C'est-à-dire que ce qui est magique, c'est comme quand on voit un circassien, si on le voit faire l'effort, il y a une partie de la magie qui s'en va. Par contre,
on voit le résultat.
Voilà. Et c'est ce que Virginie Aymon arrive à faire, parce qu'elle a ce réel plaisir
De la scène, déjà.
De la scène, avec, évidemment, comme tout professionnel, savoir travailler des mois et des mois pour une heure de représentation théâtrale.
Jérémy Béchon, vous êtes en même temps auteur et metteur en scène. Dans votre travail à quatre mains, vous choisissez d'adapter et de mettre en scène au théâtre des œuvres de sciences humaines. Pour quelles raisons et comment se fait le choix de votre répertoire et des textes ?
Il s'est fait au coup par coup, pour être honnête. Et après, une adaptation, on a appelé une autre. Quand on a travaillé sur Chacal, la fable de l'exil, sur la mythologie berbère, du coup, il a fallu apprendre l'histoire de l'Algérie. Donc, on a découvert Benjamin Stora. Donc, on s'est mis à faire les trois exils, l'Algérie, une histoire judéo-berbère.
Un super spectacle,
d'ailleurs.
Et puis,
merci. Sur l'histoire de l'immigration avec Noiriel. Ces choses-là, vous voyez, quand on parle de ces thématiques-là, ça paraît évident d'aller d'un livre vers un autre. Et à chaque fois, on trouvait qu'il y avait matière à avoir sur scène ce qui ne se représentait pas dans l'espace médiatique, ou qui était à notre sens tronqué, et ce qui n'était pas appris à l'école, et ce qui n'était pas non plus colporté par la mémoire, c'est-à-dire que toutes les mémoires traumatiques, les grands-parents, les parents ont du mal à parler de l'exclusion qu'ils ont subie. Donc comment raconter cette histoire-là ? Elle existe dans les livres d'histoire, mais elle était à notre sens absolument pas partagée. Donc voilà, il n'y a pas eu de plan préconçu, on ne s'est pas dit on va travailler.
Ça s'est fait comme ça.
Ça s'est fait au fur et à mesure des années, des livres, et puis à chaque fois, un livre venait en éclairer un autre.
Comme un fil conducteur.
Oui, comme un fil conducteur, oui.
Nous allons écouter un extrait que vous avez choisi, et vous nous expliquerez de quoi il s'agit, Jérémy Béchon.
Oui, c'est sur la période plus contemporaine de l'histoire de Marseille que partagent les autres histoires de France, les autres villes de France.
Je voulais savoir, Jérémy Béchon, dans quelle filiation vous vous inscrivez dans votre travail ? Est-ce qu'il y a d'autres compagnies de théâtre qui travaillent de la même façon ?
Pour être honnête, il y en a très peu. Je parlerai de l'histoire locale. Il y a le théâtre de l'Arcane à Marseille qui a mené un travail extraordinaire pendant des années, dans laquelle une compagnie dans laquelle travaillait Virginie Aymon et Cyril Laurent, qui est notre régisseur lumière. Il y a la compagnie Mémoire Vive à Marseille qui faisait qui mélangeait le théâtre et le hip-hop. Ça, c'est pour ce qui est en termes local. Et ensuite, de manière plus grande, ce qui m'a influencé, c'est le théâtre d'Ariane Mouchkine.
La plus grande des grandes.
Voilà, encore Eugenio Barba, dont on parlait, qui a fait une anthropologie de l'acteur, mais d'essayer de réunir les différentes techniques théâtrales qui existaient à travers le monde et de voir ce qu'il y avait de commun avec un acteur asiatique et un acteur européen, un acteur américain. La tradition du burlesque, dans laquelle je me reconnais, Dario Fo, qui est un auteur extrêmement important à mes yeux. Et après, je suis aussi influencé par des tas de petites choses en permanence, par le monde de la musique, par le monde de la littérature. Mais oui, on est dans cette tradition-là d'un théâtre festif entre le spectacle et la science.
Grands ensembles, lotissements pavillonnaires, centres commerciaux, rocades autoroutières, immeubles de bureaux. Station de métro, parking et la fragmentation de l'espace, érigé en système, nie le fait humain dans ce qu'il a d'essentiel, la capacité d'un même lieu à accueillir des activités multiples et des gens différents.
Voilà, vous pouvez nous en parler un petit peu de cet extrait, Jérémy Béchon, s'il vous plaît ?
C'est le passage qui est issu du paragraphe « La dislocation du territoire » dont nous sommes après les destructions du centre-ville de la ville de Marseille et vient s'imposer cette géographie urbaine extrêmement violente, faite de béton, de rocade, de no man's land dans lequel on serait voué à vivre aujourd'hui. Et Alesside Alumbria parle de cet espace-là disloqué comme étant l'envers d'une dépolitisation des quartiers populaires, mais aussi des classes moyennes qui viennent subir du coup le joug d'une élite économique. Voilà. Cette fragmentation de l'espace dont parle Virginie Aymon, ça vient nier, comme elle le dit, la capacité d'un même lieu à accueillir des activités multiples et des gens différents, qui est le propre de la cité, qui est le propre de la ville de Marseille en l'occurrence depuis près de 2000 ans. Et si cette nouvelle géographie urbaine a été possible à Marseille, c'est qui est allé venu d'une négation historique. Et c'est quelque chose que joue aussi Virginie Aymon à travers différents protagonistes, en jouant les architectes urbanistes aussi de l'époque. C'est de l'époque du début du XXe siècle. Pour donner un exemple, les Marseillais connaissent tous le centre Bourse. Mais peu de gens savent c'était le quartier de la Blanquerie, dit derrière la Bourse, qui était le quartier le plus peuplé de Marseille, avec des bâtisses du 16e et 17e, qui a été abattu par la municipalité de la ville de Marseille, sans même savoir ce que l'on ferait à la place. C'est-à-dire que c'est quand même assez dingue. Ça, c'était dans les années 1930. Et puis, 13 ans plus tard, avec les rafles de 1943, va être détruit toute la rive nord du Vieux-Port, là où était née l'antique République de Marseille. Donc ce Marseille défiguré, que les Marseillais connaissent aussi, il suffit de voir notre ville sous la pluie pour voir à quel point elle peut être triste également, ça vient d'une négation historique et ça vient d'une destruction du centre-ville de Marseille et de ces lieux qui avaient justement fait la mixité et la richesse culturelle de la ville. Donc après avoir raconté ces destructions-là, la comédienne nous présente la ville telle qu'on peut la connaître et justement telle qu'on peut ne plus s'y reconnaître aujourd'hui.
Alors on va pas rentrer dans un débat, mais je me dis en vous écoutant que dans tous les cas, ce que vous dites est très juste. Et en même temps, je me dis que toute ville, c'est un espace ou un être vivant et qui évolue et qui change. Et quelquefois, derrière ce qui existe aujourd'hui, il faut aller chercher comme une personne, quoi. Qu'est-ce que cette personne a été ? Eh ben, qu'est-ce que cette ville a été ? Pour ceux qui le veulent et ceux qui le souhaitent, on peut aller chercher malgré tout, parce qu'il reste quelques vestiges. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été détruites. Bon, enfin, le débat n'est pas là. Il n'y a pas de débat, d'ailleurs. Et j'écoute attentivement ce que vous nous dites.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que la ville a quelque chose d'organique.
Tout à fait.
Et c'est d'ailleurs, Alesside Alumbria, c'est aussi inspiré de la cité à travers l'histoire de Lewis Mumford, qui parle sans cesse justement de la ville et de la cité comme un être organique. Mais celui-ci peut aussi être amputé. Il peut repousser à d'autres endroits, mais il y a quand même une destruction, une punition sur la ville de Marseille qui s'est abattue du fait de sa résistance, encore une fois, face à l'État français qui est très très fort. Je pourrais donner des exemples, mais
il nous faudrait une heure de plus pour pouvoir parler de tout ça. Alors, l'exil, la domination masculine, l'immigration sont des thèmes récurrents dans votre travail. Et je me demandais, mais d'une certaine façon, vous avez répondu à ça, qu'est-ce que ces choix disent de vous ? Est-ce qu'on pourrait parler, en ce qui vous concerne, de théâtre engagé ? Jérémy Béchon.
Oui. Oui, bien entendu, de théâtre engagé. Après, c'est pas pour autant que l'outil esthétique n'est pas primordial chez nous, et que ce qui prime, encore une fois, c'est cette poésie orale, cette faculté de pouvoir partager, cette immédiateté, cette adresse directe au public, cette interaction, les dynamiques comiques. Voilà, parce que théâtre engagé, théâtre militant, on peut penser à quelque chose d'assez rébarbatif, alors qu'il s'agit de...
Ça n'est pas le cas.
Il s'agit
de... Je vous rassure, chères auditrices, chers auditeurs, je vous rassure, vous pouvez y aller, vous allez passer une heure merveilleuse de rire, d'émotion, de poésie, et tout ça servi par Virginie Aymon sur la scène, seule en scène. Alors nous allons terminer notre émission pour aujourd'hui en tout cas avec Ahmad Jamal qui parle de Marseille. Il est tombé raide amoureux de cette ville et il y revient régulièrement. Donc ce sera pour terminer.
Marseille, je marche souvent seul dans tes rues. Et trop souvent j'y ai disparu. Marseille, mon cœur si seul cherche ta caresse. Car ma vie est trop remplie de tristesse. Marseille, de ta mer de splendeur et de regrets. De ton soleil implacable jusqu'au soir tard, Marseille. Ta voix ne cesse de m'appeler, Marseille, Marseille, ville d'éternité. Marseille. Ouais. Tes monuments abondent en nombre, tes mystères au-delà des hommes nous comblent, Marseille. Jamais je ne pourrai regretter le jour béni où je t'ai rencontré. Oui, Marseille, de ta mer de splendeur et de regret, de ton soleil implacable jusqu'au soir tard. Marseille, ta voix ne cesse de m'appeler. Marseille, Marseille, ville d'éternité. Oui, d'éternité. Marseille. Jamais je ne pourrai t'oublier, Marseille. Je marche seul dans tes rues, et trop souvent j'y ai disparu, Marseille. Ouais.
Voilà, les transversales sont maintenant terminées. Merci aux auditrices, aux auditeurs de nous avoir suivis. Merci Jérémy Béchon d'être
Marseille,
venu jusqu'à nous. Et c'était un joli moment pour reparler de l'histoire universelle de Marseille, particulière et universelle à la fois.
Ben merci à vous.
Donc toutes les pour retrouver les transversales, ben c'est simple. Il suffit d'aller sur le site des transversales www.lespetits-transversales.fr ou encore sur en podcast sur le site de Radio JM. Merci encore.
Merci à vous encore une fois.
Et à la prochaine.